Donc on va continuer à voyager. Donc maintenant qu'on est rentré dans un petit peu dans les logiques nationales, on va essayer de tirer quelques fils dans les logiques internationales. Donc je vous propose de faire un tour du côté de l'UNESCO, de l'OCDE et de l'Union européenne pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors modestement et grossièrement surtout, ce sera à gros traits parce que c'est pas l'objet de rentrer dans quelque chose de très pointu ici, mais c'est juste, je dirais, pour retirer un peu quelques informations sur comment ça fonctionne, ces organisations internationales, et quel est leur positionnement par rapport à la recherche, et en quoi c'est intéressant, et quel type d'informations on peut y trouver dans notre travail quotidien. Alors, il faut que je mette plutôt comme ça. Oui, alors juste deux diapos de contexte. Pourquoi effectivement c'est intéressant de voir le positionnement de ces organisations internationales? C'est clair que j'ai mis quelques mots clés. Donc les mots clés, c'est globalisation, compétitivité, internationalisation, etc. Bon, tous les États rentrent dans ces logiques de globalisation aussi au niveau de l'éducation. Les études comparatives se multiplient. Elles sont effectivement menées la plupart du temps dans ces organismes internationaux, OCDE, UNESCO. Enfin, UNESCO pas trop, mais OCDE, Union européenne, Banque mondiale, etc., qui sont des acteurs importants de ces analyses comparatives. Et les États ont besoin de ça pour évaluer, je dirais, la performance de leur propre système et savoir comment se positionner par rapport à une évolution ou à une rénovation, quelle qu'elle soit. Ce qui est intéressant, c'est à la fois le côté évaluation, comme je viens de le dire, mais aussi le côté audit. C'est le cas du Danemark que je viens de vous citer. Le fonctionnement de ces organisations internationales, c'est quand même ça. C'est-à-dire, l'OCDE en particulier, on va le voir, fait en quelque sorte des appels d'offres sur des thèmes. C'est pas vraiment des appels d'offres, mais c'est l'OCDE pendant 4 ou 5 ans va proposer une étude sur une analyse comparative sur les logiques, on verra l'exemple tout à l'heure, sur les logiques régionales, universitaires. Donc comment se développe l'université sur un territoire. Et donc pendant 4 ou 5 ans, il va y avoir un focus sur ce thème-là, et les pays vont se porter volontaires pour rentrer dans ce protocole d'analyse. C'est comme ça que ça fonctionne. Il me semble que ici les idées intéressantes, c'est à la fois les anglo-saxons parlent d'accountability, donc obligation de résultat. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus gros, parce que il me semble que ça résume assez bien le reste. Et puis je dirais le deuxième mot clé que j'ai mis un peu en gros, c'est acquis d'apprentissage. Pourquoi learning outcomes, parce que on rentre aussi ces logiques d'internationalisation poussent à s'intéresser davantage, je dirais, aux données de sortie du système éducatif qu'aux données d'entrée. Donc on trouve moins d'analyses comparatives sur, je sais pas, les types d'établissements, les programmes, etc. On trouve de plus en plus d'analyses qui s'intéressent aux acquis, donc ce qui ressort du système éducatif. On le reverra, mais il me semble que c'est des notions qui sont importantes aujourd'hui. Cette diapo a pas beaucoup d'intérêt. C'était l'idée qu'il y avait une influence effectivement des organisations internationales. Bon, je suis pas capable de la qualifier. Il y a une influence, elle est réelle. Comment fonctionnent les flux? Est-ce qu'elle est plus ou moins forte selon les pays? Sans doute. J'ai vu passer une analyse, peut-être que parmi vous certains l'ont vu passer, j'ai pas réussi à la retrouver. Il y a pas longtemps là, ça fait, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Qui disait en gros, il y a des bons élèves au niveau de l'Union européenne, des moyens élèves et des moyens et des mauvais. Par rapport, je dirais, aux recommandations ou à toute, je dirais, l'investissement législatif de l'Union européenne qui n'est pas prescriptif plus que ça. Bon, il y a effectivement une façon, je dirais, de s'approprier ces recommandations qui varient fortement d'une culture nationale à l'autre. Et donc j'ai vu passer une étude comme ça, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Ça dit rien à personne ? Les Français étaient évidemment des mauvais élèves dans l'histoire. Peu importe. Donc l'UNESCO en bref, bon, on va pas rentrer dans le détail l'UNESCO, mais assez rapidement, il me semble que s'il y a une idée clé à retenir au niveau de l'UNESCO, c'est celle de l'éducation pour tous. Donc c'est une approche qui a été mise en œuvre depuis 2000 au Forum de Dakar, notamment, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées avant, mais ça a réellement été formalisé à ce moment-là. Et ce cadre d'action de l'éducation pour tous a défini un certain nombre d'objectifs internationaux de type, par exemple, faire que chaque élève achève un cycle complet d'éducation primaire. Bon, on va pas les énumérer. Celui-là est important. Pourquoi ? Parce que je dirais que il est remis en question aujourd'hui. Essentiellement du fait que ce cycle d'éducation primaire n'est pas suffisant et qu'il faut évoluer de ce cycle, enfin de cette démocratisation ou de cet accès au cycle d'éducation primaire vers cette notion d'éducation de base. Donc il me semble que c'est là maintenant que se situe, l'importance de l'UNESCO, hein, dans cette transition de l'éducation pour tous vers l'éducation de base, qui promeut l'idée d'une scolarisation étendue, hein, 9 années d'éducation, donc pas seulement du primaire, qui inclut une ouverture vers la vie professionnelle. Donc c'est maintenant vers ça qu'évolue l'UNESCO et met en place un certain nombre de systèmes, de dispositifs régionaux, notamment en Afrique, pour soutenir cette évolution. En termes de production comparative, on a le rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous qui est publié une fois par an et qui fait un petit peu le bilan de la progression des différents États par rapport aux indicateurs. Avec une approche thématique, hein. Donc le thème de la consultation 2010, je vous ai mis là, c'est atteindre et éduquer les plus marginalisés. Bon, donc ce document est librement accessible sur le site de l'UNESCO, hein. Il est en accès libre. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur l'UNESCO. Juste signaler qu'il existe à l'intérieur de l'UNESCO des structures opérationnelles dont vous avez sans doute entendu parler. Je ne vais pas aller au-delà de ce signalement. Vous avez le Bureau international d'éducation à Genève, notamment, et l'Institut international de planification de l'éducation, qui sont parmi les producteurs d'informations les plus souvent cités. Voilà, donc il y en a d'autres, j'en ai noté 6 je crois, je ne vais pas les détailler, vous pourrez les retrouver. Ce qui est intéressant à signaler pour finir sur l'UNESCO, c'est la mise en place d'une base statistique commune UNESCO-OCDE Eurostat, qui est la base européenne, qui effectivement permet d'accéder à un certain nombre de statistiques sur l'éducation. Bon, c'est personnellement, je m'en sers pas trop. Il faut savoir qu'elle existe parce que bon, ça permet quand même d'accéder à un certain nombre d'informations, mais je trouve qu'elle est assez rude d'approche. Bon, mais bon. Alors l'OCDE. On va s'attarder un tout petit peu plus sur l'OCDE. Qu'est-ce qu'on connaît de l'OCDE ? Donc évidemment PISA. Bon, je vais peut-être pas trop en parler parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez connu. Je dirais pas parmi les. Enfin moi j'ai identifié 3 points qui me paraissent des choses assez connues. Donc PISA. Regard sur l'éducation, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, c'est la production annuelle, hein, la production annuelle de l'OCDE, hein, de même que vous avez le rapport mondial de suivi pour l'UNESCO, hein, vous avez regard sur l'éducation pour l'OCDE, qui est une production annuelle et qui est aussi librement accessible sur le site de l'OCDE, hein, il faut le savoir. C'est que vous ayez un abonnement à la bibliothèque de l'OCDE ou pas, vous avez accès au contenu de cette publication, qui s'appuie sur une collection d'indicateurs absolument énorme. Voilà, depuis 99, d'après mes investigations. Et puis, je dirais ce dont on connaît plus ou moins l'existence confusément, je dirais, c'est le CERI. Le CERI, c'est une des structures internes à l'OCDE, Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, qui a été créé en 68 à une époque où il y avait un besoin un petit peu pressant d'analyse, enfin en tout cas de rénovation des systèmes éducatifs. Donc ce centre qui a fêté ses 40 ans l'année passée, et je dirais une des structures clés de production, je ne sais pas s'il faut dire scientifique, mais en tout cas d'analyse sur les systèmes éducatifs. Et qui a une approche effectivement transversale et prospective. Donc bon, j'avais essayé de détailler un peu PISA, je pense qu'on va passer ça. Regard sur l'éducation, pareil, je ne vais pas insister trop, simplement dire que la batterie d'indicateurs qui est utilisée chaque année depuis 99 est évidemment révisable, hein, donc elle progresse, et parmi les choses qui ont par exemple été ajoutées en 2009, on peut citer l'analyse des choix budgétaires par pays entre des facteurs tels que le salaire des enseignants, le nombre d'heures de cours et la taille des classes. J'imagine que cet indicateur peut intéresser pas mal de monde. Mais les autres aussi, sans doute. Mais bon. Alors le CERI, j'avais aussi un petit détail sur le CERI. Bon, c'est vrai que le CERI produit de la prospective, traite les questions complexes de manière transversale. C'est vraiment un point d'entrée essentiel, hein, dans la production de l'OCDE. Ils ont un rôle d'incubateur tout à fait essentiel. C'est eux notamment qui ont posé les jalons pour, je dirais, la systématisation des études statistiques qui sont aujourd'hui traduite dans la collection Regard sur l'éducation, hein. Donc c'est plus eux qui s'en occupent maintenant, mais c'est eux qui ont été à l'origine de ce projet-là dans les années 90. C'est eux qui, par exemple, ont commencé à parler de formation continue tout au long de la vie dans les années 70, alors que l'expression tout au long de la vie existait nulle part. Bon, voilà. Donc, ils sont dans l'innovation et avec ce côté un petit peu prospectif qui est vraiment intéressant pour sentir un petit peu l'évolution des recherches, quoi. En tout cas, des. Voilà, bon. Alors, ce qu'on connaît un peu moins de l'OCDE, peut-être, enfin, peut-être que je me trompe, hein, ce sont mes représentations à moi, mais ce qui me semble qui est un peu moins connu, c'est que PISA n'est pas la seule enquête internationale, hein, et notamment, il y a un renforcement, hein, de cette approche de type enquête internationale, parce que les deux enquêtes que je cite sur cette diapo sont des enquêtes tout à fait récentes, donc Thalys, Teaching and Learning International Survey, qui s'intéresse aux enseignants et je dirais à l'environnement pédagogique, enfin l'environnement, les conditions de travail des enseignants dans les écoles, en fait c'est ça l'idée, a été lancée pour la première fois en 2008, donc elle est tout à fait récente, dans 23 pays pour l'instant. Les premières analyses ont été publiées en juillet 2009, il y a un deuxième rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça va être un matériau je dirais à exploiter pour les chercheurs et les décideurs, assez important. Une deuxième enquête qui n'existe pas encore, mais enfin en tout cas qui n'a pas encore été lancée, mais qui va l'être en 2011, s'intéresse en revanche aux compétences des adultes, et notamment aux questions de compétences cognitives et compétences professionnelles, alphabétisation, etc. Avec un volet littérisme, comme disent les Français, c'est-à-dire compétences informationnelles, hein, on dirait dans un langage un peu plus courant. Voilà, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein. Enfin, il y a pas mal d'informations sur le site qui vous permettent de voir un petit peu quel sera le contenu de cette enquête là, mais elle est en cours en tout cas de structuration. Voilà. Parmi les choses qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins également, le programme IMHE, je vais y arriver, dédié à la gestion des établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est un programme qui fonctionne un peu sur une logique associative, enfin on va pas dire ça comme ça, mais en tout cas ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui sont adhérents à ce programme, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce programme IMHE, lui, est plutôt spécialisé dans les examens thématiques. En fait, c'est le vocabulaire de l'OCDE, hein, mais je vais vous expliquer juste après ce que c'est qu'un examen thématique, parce qu'il me semble que c'est intéressant, qui sont des analyses systématiques, comparatives, sur une période donnée, hein, comme je vous disais au tout début. Le CERI ne fait pas ça, par exemple, mais l'IMHE fait ça, hein, c'est leur spécialité. Donc ils ont 3 ou 4 thématiques fortes sur lesquelles ils s'investissent pendant 4, 5, 6 ans selon le cas, et vont mener des analyses dans différents pays pour faire remonter de l'information qu'ils vont traiter ensuite. Voilà, donc ça c'est un petit peu la spécialité. Donc c'est aussi un programme essentiel, je dirais, dans les activités de l'OCDE. Après, en termes de projet, bon, vous avez sans doute entendu parler du projet DESECO. J'ai mis des projets qui passeront à la postérité. Effectivement, celui-là, me semble-t-il, a eu une résonance assez importante dans les politiques éducatives nationales, dans le sens où il a posé des jalons pour l'introduction des approches par compétences dans la formation initiale, me semble-t-il, hein. Mais bon, Olivier saurait sans doute en dire plus sur le sujet, mais il me semble que là, il y a un jalon absolument essentiel. Alors bon, des projets qui n'en finissent pas d'être pertinents, il y en a beaucoup. Effectivement, j'en ai mis un parce que j'avais envie d'en mettre qu'un. Il faut passer à autre chose après. Mais l'école de demain, qui est un autre projet de l'OCDE, Schooling for Tomorrow, qui effectivement produit de l'analyse prospective depuis 97, avec une base de connaissances en ligne absolument phénoménale, des études de cas, des analyses de tendances, etc. Tout ça, me semble-t-il, en libre accès, mais bon, là je m'avance, enfin, il doit y avoir des choses qui ne sont pas en libre accès, mais comme nous on a des abonnements, parfois on se rend pas toujours compte, hein. Autant regard sur l'éducation, je suis absolument sûre que n'importe qui peut y accéder, autant là, bon, il y a sans doute des choses qui ne sont pas aussi accessibles que ça. Bon, oui, pour finir sur l'OCDE, je voulais vous donner quand même un exemple de ce qu'ils appellent un examen thématique, hein. Parce que, bon, c'est un exemple que j'ai choisi, hein, donc il est effectivement emblématique, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a un protocole derrière, donc j'ai choisi cet exemple, enseignement supérieur et développement des villes et espaces régionaux. Bon, le titre est pas très, bon, un peu long, un peu alambiqué, mais bon, on voit bien un petit peu de quoi il retourne, hein. C'est l'idée de voir comment les établissements d'enseignement supérieur s'inscrivent dans un développement économique, social et culturel, dans une échelle territoriale plus ou moins sur un territoire, quoi. Bon, c'est un programme qui est développé, enfin c'est un projet qui est suivi par l'IMHE dont je vous parlais tout à l'heure, qui a commencé bien avant 2005, puisqu'en 2005 ils ont commencé les premières enquêtes, hein, donc il y a quand même un travail avant pour définir les indicateurs, évidemment. Donc les premières enquêtes, il y a eu un premier volet d'enquête en 2005-2007, un deuxième volet qui va se terminer l'année prochaine, qui a été mené en collaboration avec la Banque mondiale. Donc ça veut dire derrière concrètement que ce sont des établissements qui ne sont pas nécessairement membres de l'OCDE qui participent à ce niveau-là. Et puis un dernier volet en 2011-2012 qui concernera essentiellement les établissements membres de ce programme IMHE dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez ce protocole d'enquête, hein, donc un premier volet qui permet, je dirais, de tester les benchmarks hein, de réajuster, et puis ces deux volets consécutifs qui vont permettre de récolter de l'information un peu normalisée, un peu standardisée, un peu comparable, avec évidemment toutes les limites que ça comporte, hein, on va pas rentrer dans ce type de discussion, mais il est bien évident que ça comporte des limites. Donc à chaque enquête, on a un rapport final. Le rapport final à chaque volet d'enquête, pardon. Donc le premier volet d'enquête sur les 14 études régionales 2005-2007 est déjà paru. Les deux autres vont arriver et à la fin, on aura une conférence finale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une dimension protocolaire là-dedans. C'est ça que je voulais souligner. Sans doute ce document-là est pas très visible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu flou sous mes yeux, mais donc vous avez effectivement un déroulement dans ces analyses, avec une phase de participation, enfin une phase de définition du projet, avec le pays qui se portait volontaire pour y participer. Dans ce programme-là, il y a une phase d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'il y a un premier rapport entre guillemets qui est produit par des experts. Par une équipe d'experts du pays en question et un deuxième rapport qui est ensuite produit par les experts de l'OCDE qui va s'appuyer sur le premier rapport, voilà, et une phase de diffusion. Bon, c'était juste pour vous donner une idée, hein. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a une production, de documentation absolument phénoménale, et que derrière cette production d'informations phénoménales, cette production est la plupart du temps disponible en ligne quand même. Donc ça peut valoir le coup d'aller explorer les thématiques de l'OCDE, en tout cas, pour voir s'il n'existe pas quelque chose sur les sujets qui vous intéressent. Voilà. Bon, c'était tout sur l'OCDE, donc sur l'Union européenne maintenant. Ça va être un peu plus compliqué, l'Union européenne, parce que, bon, l'OCDE, même si c'est énorme, il y a quand même des points d'entrée sur lesquels on peut s'appuyer. L'Union européenne, ça a été un tout petit peu plus compliqué parce que c'est moins centralisé, on va dire. Mais bon, quand même, j'ai essayé de tirer quelques fils qui peuvent vous permettre vous-même d'entrer dans ce magma d'informations. Bon, pour commencer, le pilotage des questions d'éducation et formation dans l'Union européenne se fait par une direction générale qui n'est pas seulement concernée par l'éducation, qui s'occupe aussi de culture, de communication, de sport, qui est la direction générale éducation et culture, DGEAC. Donc c'est un sigle qui reviendra de temps en temps dans les diapos suivantes. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez en gros deux cadres d'action, me semble-t-il. Toujours grossièrement, hein, évidemment, il y a peut-être des choses plus fines, mais là, on est dans le grossier, on est bien d'accord. Il y a un premier cadre d'action qui est un cadre d'action stratégique, qui s'appelle « Éducation et formation 2010 ». Et vous devinez que ce cadre stratégique va bientôt s'intituler « Éducation et formation ». Ben 2020. Mais vous dormez, hein. C'était facile comme question. Bon. Pardon? Oui, c'est vrai. Bon, c'était juste. Donc ce cadre stratégique inclut notamment les questions de, enfin les, ce cadre d'action stratégique inclut notamment la réflexion autour du processus de Bologne pour l'enseignement supérieur et autour du processus de Copenhague pour l'enseignement et la formation professionnelle. Voilà. Et dérivé, je dirais, dans la continuité de ce cadre d'action, il y a un certain nombre d'outils qui sont produits, hein, sous forme de recommandations, la plupart du temps. Et ces outils, au service de l'éducation et la formation tout au long de la vie, FTLV, excusez-moi, mais je veux toujours mettre trop de choses sur les diapos, donc... parmi ces outils ou ces instruments qui sont développés dans le cadre de ce programme stratégique, on retrouve le cadre européen des compétences clés qui a été publié en 2006 et le cadre européen des certifications qui, lui, date de 2008, donc est un tout petit peu plus récent. Bon. Donc ça, c'est, je dirais, le programme d'action stratégique. Ensuite, vous avez un programme d'échange et de coopération qui s'appelle Éducation et formation tout au long de la vie, je vous assure, 2007-2013, et qui inclut tout ce qui est programme de coopération scolaire, sur les projets scolaires avec Comenius, les échanges étudiants et enseignants, personnel d'éducation avec Erasmus, etc., etc. Bon, avec un opérateur national qui est l'agence éducation, l'agence Europe Éducation Formation France, 2E2F pour les intimes. Bon. Voilà, donc il y a ces deux programmes qui me semblent sont permettent de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Il y a le Conseil de l'Europe. Alors le Conseil de l'Europe a une action un peu moins claire, mais est quand même investi depuis l'après-guerre, hein, donc je crois que c'est depuis 49, j'ai mis au service de la diversité. Pourquoi ? Parce que ils sont sur des problématiques de soutien au plurilinguisme, de éducation aux enfants de migrants, diversité culturelle, multiculturelle, interculturelle, etc. Hein. Donc ça, c'est un peu le credo du Conseil de l'Europe. Et puis, vous avez des structures et des réseaux d'acteurs qui sont plus dans des productions, je dirais, de type recherche, hein, donc qui nous intéressent un peu plus, Euridis, le CDFOP, le CREL, et puis des projets de type NES et ENE. Mais je vais y revenir, j'ai des diapos spécifiques dessus, donc je passe vite maintenant. Ça, c'est le fonctionnement de la Direction Générale d'Éducation et Culture, c'est pas très important. La stratégie de Lisbonne, peut-être que je peux passer ça aussi. Oui, hein, d'accord. Le processus de Bologne, en quoi ça influe. Donc, bon, en France, c'était l'origine du LMD. Non, je sais que voilà, on est un peu limité par le temps, donc je sais pas trop comment, je dirais comment. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus intéressant, Olivier ? Je ne sais pas. Tu sais pas. Qu'est-ce qui vous intéresse que je vous raconte ? Bon, Comenius, je ne sais pas s'il faut trop en dire grand-chose. Je pense que vous avez tous une connaissance sur le sujet. On quitte un peu le milieu de la recherche ici, hein, mais c'est l'idée, comment on produit de la connaissance sur l'éducation au niveau des grandes institutions, hein. C'était ça mon axe d'entrée. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces programmes-là aussi. Oui, bah c'est ce que j'ai mis effectivement sur cette diapo, c'est-à-dire qu'il y a, on peut regrouper, je dirais, les projets soutenus par Comenius selon deux axes. Donc un axe effectivement de nature pédagogique, donc des projets scolaires, qui est sans doute le plus connu, qui se décline aussi au niveau des assistants de langue et de la mobilité individuelle des élèves. Hein. Ça c'est un peu émergent, mais on commence à avoir, je dirais, de l'appui en provenance des structures de l'Union européenne pour cette mobilité des élèves. On n'est pas sur les étudiants là. Et puis il y a effectivement un certain nombre d'activités assez importantes, me semble-t-il, qui sont axées sur le développement professionnel et donc sur les enseignants. Oui. Absolument, sur la formation des enseignants, des bourses de formation continue et puis des projets qui concernent oui, l'offre de formation, en tout cas pour les enseignants et les formateurs. Oui. Bon, on va peut-être arrêter d'enregistrer. Oui, bon. Le Conseil de l'Europe, par exemple, par rapport à sa production, j'ai évoqué tout à l'heure le cadre européen des certifications. Si. Voilà, qui est donc une recommandation européenne qui, en gros, a vocation à permettre une transposition hein, des pour lire les différentes certifications nationales, en tout cas pour les mettre en rapport hein, les unes avec les autres, pour que d'un pays à l'autre, on puisse avoir une idée. Je dirais du savoir, des aptitudes et des compétences d'une personne qui a obtenu telle ou telle certification. Là, on est sur une recommandation. C'est une recommandation qui a une incidence forte, en tout cas en France, parce que tous les instituts, enfin tous les organismes de formation continue à l'heure actuelle sont en train de s'activer. Pour rentrer dans ce cadre-là, parce que même s'il s'agit simplement d'une recommandation, elle a un poids énorme. On peut pas se permettre de manquer le train si à un moment donné on veut avoir une visibilité de nos certifications à l'échelle européenne. Et comme je vous disais tout à l'heure, parmi les changements de perspective qui me paraissent majeurs, ce cadre européen des certifications s'appuie sur une logique de standardisation basée sur les acquis. Hein, et non pas sur les programmes, par exemple, scolaires, etc. C'est du même ordre que PISA. Enfin, c'est pas du même ordre, mais en tout cas, la perspective est un peu la même. Le Conseil de l'Europe, pour sa part, a produit un autre cadre européen dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, je ne saurais pas trop vous en dire où est-ce que ça en est du déploiement de ce dispositif en France, mais en tout cas, là, c'est effectif. Hein, c'est pas seulement l'Union européenne qui produit un truc et ça reste dans son coin. En tout cas, les textes officiels s'en sont emparés. Il y a eu des recommandations claires du gouvernement français pour développer cet outil-là dans l'enseignement secondaire. Je ne saurais pas vous en dire plus. Ça, c'est Rémi Thibert qui serait peut-être développé sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, c'est...
Oui. C'est juste dans le cadre des séminaires thématiques de l'INRP qui ont été lancés. Je reprends. Dans le cadre des séminaires thématiques de l'INRP qui ont été lancés il y aura bientôt un mois, il y a eu une intervention sur ce sujet, elle sera en ligne. Donc voilà.
D'accord.
Vous êtes invité à regarder le site.
Voilà. Le Conseil de l'Europe est également à l'origine du portfolio européen des langues qui, pareil, existe auprès des enseignements de langue en France. Je ne sais pas exactement comment ils se l'approprient, mais... voilà. Alors je vais terminer sur là-dessus, hein, sur les réseaux et les organismes. On va pas tous les passer en revue. Je vais vous dire deux mots sur Eurydice, sur le CDFOP, et puis je passerai la parole à Olivier pour le réseau NES, puisque l'INRP est tout à fait partie prenante dans ce réseau. Alors Eurydice, c'est quoi Eurydice? Vous connaissez peut-être?
Oui.
Oui, merci. Merci. Donc Eurydice, c'est un réseau, c'est un centre de ressources. Hein. Donc c'est un centre de ressources et je dirais leur axe à eux, c'est les systèmes éducatifs européens. Donc ils produisent de la ressource sur les systèmes éducatifs européens, différents types de ressources, parmi lesquels vous avez alors un truc que personnellement je trouve très pratique. Depuis 2 ans simplement ils le font, mais c'est quand même très très pratique. Un digeste annuel sur le schéma d'organisation de l'enseignement initial dans tous les pays européens. Ça veut dire que vous avez une dizaine de pages qui vous font des schémas normalisés basés sur la classification de l'UNESCO. Hein, la classification ICED qui découpe en fait la formation initiale en éducation pré-primaire, éducation primaire, éducation secondaire, éducation supérieure. Enfin bon, voilà, il y a une espèce de découpage comme ça normalisé qui a été produit par l'UNESCO qui est réutilisé aujourd'hui partout. Et donc notamment par Eurydice. Donc c'est assez facile parce que c'est assez schématique et ça permet de repérer par exemple ce que je vous disais tout à l'heure sur le Danemark, c'est-à-dire que le Danemark n'a pas d'enseignement secondaire premier degré. Ils ont un bloc qui fait primaire et secondaire premier degré. Voilà. Et tout ça, ça fait une unité chez eux. Bon, voilà. Donc, et puis ça permet de voir effectivement les décalages d'années, quand est-ce que commence l'école obligatoire, dans quel pays, etc. Bon, donc ça donne un document bon, assez intéressant quand même à avoir sous la main. Ça peut permettre de comprendre des choses parfois. Parmi les autres ressources qui me paraissent tout à fait essentielles produites par Eurydice, ce sont des rapports de synthèse ou des fiches de synthèse qui correspondent à une description normalisée des systèmes éducatifs. Donc eux aussi ont défini un protocole avec un certain nombre d'entrées et chaque année il y a une mise à jour annuelle des pays européens. Bon, et donc là pareil, on a effectivement un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre un petit peu comment sont structurés les systèmes éducatifs. Parmi les choses essentielles produites par Eurydice également, alors en termes de publication cette fois-ci, on a une collection qui s'appelle Chiffres clés, dont vous avez peut-être entendu parler sans vraiment repérer que c'était une collection. C'est une collection, il y a un numéro qui sort chaque année. Et qui est une analyse comparative, ça correspond un petit peu au regard sur l'éducation de l'OCDE, c'est un peu le même type. On n'est pas dans des catalogues avec un premier chapitre sur la France, un deuxième sur l'Allemagne, etc. On rentre par des indicateurs et on a une analyse comparative, c'est pas que du chiffre, contrairement à ce que le titre pourrait laisser supposer. Donc on a parfois des entrées un peu thématiques. Donc en 2008, il y a eu le numéro de 2008, Chiffres clés, était dédié à l'enseignement des langues à l'école en Europe. Donc là, toute la batterie d'indicateurs qui est analysée concerne cette thématique. En 2009, on a un numéro un peu plus généraliste sur l'éducation en Europe. Bon, donc ça varie d'une année à l'autre, mais il faut savoir que cette collection-là existe et qu'elle est également librement accessible en ligne. Bien, tous les documents d'ailleurs de Eurydice sont librement accessibles en ligne. Parmi les autres documents importants produits par ce centre de ressources, on a des études thématiques. Bon, alors je vous ai mis quelques numéros de 2009. Il y a une production assez importante. Enfin, bon, il y a à peu près, oui, on va dire un numéro tous les deux mois. Alors parfois c'est un peu raccourci, mais oui, cinq ou six numéros par an. Bon, c'est quand même pas mal. Donc en 2009, on a eu par exemple l'éducation artistique et culturelle à l'école. Qui est la dernière production publiée, l'avant-dernière, les évaluations standardisées des élèves, qui est tout à fait importante. Un autre numéro sur l'intégration scolaire des enfants migrants, une sur les avancées du processus de Bologne, et une sur l'éducation pré-primaire et primaire, avec l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. Bon. Donc voilà, ce sont quelques exemples, simplement. Parmi ce que produit également Eurydice, qui est tout à fait essentiel, notamment pour ceux qui seront là pour les travaux pratiques qui commenceront jeudi matin, c'est le TESE, par exemple, qui est le Thésaurus européen des systèmes éducatifs, qui est dynamique, enfin je veux dire consultable en ligne, c'est pas un PDF, et qui est disponible en un certain nombre de langues, je sais pas combien, et qui est assez facile, enfin je dirais, il est utile dans le sens où il permet de repérer du vocabulaire, parce qu'on n'est pas tous bilingues anglais, enfin nous en tout cas, encore moins bilingues danois ou je ne sais pas quoi, donc bon, enfin là c'est pas un bon exemple, mais en tout cas ce Thésaurus permet de repérer le vocabulaire anglais qui correspond aux idées qu'on a, au vocabulaire français qu'on a pour décrire le système éducatif, quoi. Donc ça permet d'élargir les recherches, c'est tout à fait essentiel, me semble-t-il. Enfin, pour nous, dans le travail qu'on fait de veille, en tout cas. Je vais terminer sur le CDFOP, qui est une autre des énormes structures de l'Union européenne, un réseau qui produit de la ressource, énormément de ressources, disponibles en ligne également pour la plupart, sur l'enseignement et la formation professionnelle. Mais bon, ça va au-delà de ça. C'est pas seulement enseignement et formation professionnelle. Ils ont également un processus, je dirais, un protocole normalisé pour décrire les systèmes de formation nationaux. Donc ces rapports nationaux VET in EUAP, c'est Vocational and c'était quoi? Vocational Education and Training, j'étais en train de chercher. En français, ça le fait mieux. Enseignement et formation professionnelle, ça va bien comme ça. Mais le CDFOP, le site est 100% en anglais. C'est pour ça que j'ai mis le vocabulaire anglais. C'est pas par snobisme. Hein. Et d'ailleurs, Eurédis également. Hein, le site est 100% en anglais. Bon. Ces rapports nationaux qui suivent également un protocole normalisé sont également absolument incontournables pour pénétrer dans un système éducatif national qui n'est pas le vôtre, et pas seulement sur l'enseignement et la formation professionnelle. Le protocole normalisé donne des informations sur le système éducatif. Donc je voulais le signaler parce que en prenant les rapports de Redis de tout à l'heure dont je vous ai parlé et ceux produits par le CDFOP, si vous vous intéressez à un pays particulier sur lequel vous avez une connaissance confuse, en lisant ces deux documents-là, je pense que vous arrivez quand même à une connaissance qui vous permet d'avancer. Par rapport à ces rapports nationaux, il y a aussi des rapports, un protocole plus détaillé sur certains thèmes. Avec des mises à jour qui sont moins régulières, hein. Donc parfois il y a des choses qui datent un peu, c'est pas annuel, mais bon. Je vous ai cité simplement trois exemples d'analyses thématiques détaillées produites par le CDFOP. Donc par exemple sur Skills and Competencies Development and Innovative Pedagogy, avec mon super accent anglais. Ce thème-là me paraît particulièrement intéressant parce que ça donne une idée de comment les pays, chaque pays, s'empare de ces questions de compétences, de développement de compétences et de l'innovation. Donc ça donne, pareil, quelques pistes sur les dispositifs vraiment récents, politiques. Hein, voilà, bon. En termes de production également, je pense que je vais terminer avec ça. Le CDFOP a aussi une collection, enfin il y a plusieurs collections, mais la collection qui me paraît en tout cas la plus productive, c'est le CDFOP Panorama Series. Donc là, vous avez des analyses comparatives sur un certain nombre de thèmes. J'en ai dénombré à peu près 140 la semaine dernière quand j'ai fait ce diaporama. Donc, et là, il y a une production très très régulière. Il y en a 3 par mois, quoi. Enfin, c'est assez important. Sur des thèmes clés, alors les thèmes clés du CDFOP, je vous les ai mis en dessous. Éducation, formation continue, les politiques, les relations formation-emploi, les compétences, les questions de qualité d'éducation et de certification, et puis l'enseignement et la formation professionnelle. Bon, voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était quelques détails, mais c'est moins important. Alors, je vais passer la parole à Olivier pour NES, qui n'est pas un organisme, qui est un réseau d'acteurs auquel l'INRP contribue.
Alors, rapidement, je crois que j'avais fait une diapo sur NES. très rapidement, c'est un réseau qui a été constitué à la suite d'un appel d'offres de la Commission européenne en 2007. Il est représentatif du type d'action que la Commission européenne peut mener, c'est-à-dire de structurer des experts ou des chercheurs au niveau européen sur une question qui l'intéresse et donc quelque part de susciter des synergies et de les faire produire. L'objectif, je ne dis pas l'objectif forcément contractuel, mais l'objectif réel tel que je vois fonctionner le réseau, puisque, oui, parenthèse, dans ce réseau NES, la VST est chargée de faire la cartographie justement des experts européens, c'est de disposer d'un ensemble de ressources pour nourrir les orientations de la Commission. Il arrive souvent que quand la Commission prépare une recommandation sur tel ou tel sujet de politique éducative européenne, elle envoie un draft, un brouillon, enfin un projet, quoi, bref, au réseau, aux experts NES, et elle sollicite d'autres réseaux, mais que ce réseau, on lui demande de donner son avis. de conseiller donc de ce point de vue-là la direction, la DGEAC, et de faire des petites séances de formation des hauts fonctionnaires européens, enfin des mini-séminaires quoi, des mini-séminaires qui se tiennent à Bruxelles. Dans l'esprit de la direction éducation et culture, visiblement, c'était d'avoir un pendant du point de vue des sciences sociales, puisqu'ils appellent ça les sciences sociales de l'éducation, du réseau qui était déjà constitué, des économistes de l'éducation, du réseau ENI, Economics of Education, et d'avoir ce pendant et de les faire travailler en parallèle sur la même question pour avoir en gros le point de vue des économistes et le point de vue des sociologistes, hein, pour parler très rapidement, puisque quand on dit sciences sociales pour l'éducation, souvent ils l'assimilent à sociologie. Et il y avait également la volonté de s'ouvrir à des démarches plus universitaires, puisque les économistes souvent tombaient sur les mêmes points de vue que ce qu'ils trouvaient déjà chez les consultants, et plus diversifié, et ils insistent toujours pour le fait d'essayer qu'on s'ouvre à des recherches non anglophones. Bon, en même temps, c'est très compliqué. Je n'ai pas fait tout à l'heure l'exposé sur la recherche en éducation d'Italie, parce que visiblement, on n'a pas le temps. Mes collègues ont été un peu longs. Mais en gros, ce que j'aurais dit, si j'avais eu le temps, c'était que le véritable problème, c'est que la recherche en éducation est très peu structurée dans les pays méditerranéens, que c'est essentiellement des recherches sont développés à partir des endroits où agissent des enseignants, où sont formés des enseignants, et qu'à partir de là, ce manque de structuration fait qu'elles sont très difficiles à identifier, et que même nous, la VST, quand il s'agit de trouver des experts italiens, espagnols ou portugais sur un ensemble de questions, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et pas seulement pour des questions linguistiques. Et en plus, il faut bien dire que la communauté internationale a tendance à se structurer sur la lingua franca qui est l'anglais, et qu'à partir de là, les recherches qui sont peut-être très intéressantes mais qui ne sont pas en anglais ont tendance à rester des recherches ignorées ou méconnues. C'est un problème d'ampleur qui est compris par tous, mais on n'arrive pas réellement à dépasser cet obstacle. Et il faut bien dire que même la Commission européenne qui nous demande de trouver des experts méditerranéens, quand ils font des formations, ça les arrange bien que la personne elle parle anglais, parce que tout le monde parle anglais et qu'ils n'aient pas besoin de faire traduire un certain nombre de choses, et que de même, souvent, la pensée dominante, de par là même, ça devient une pensée en anglais, avec des références en anglais, où c'est plus facile de citer tel auteur anglais-américain ou qui a publié en anglais, tout simplement parce que ça veut dire qu'il a été publié dans des maisons d'édition qui sont facilement accessibles de partout et qui sont lisibles par tous, plutôt que de citer y compris un rapport en allemand que ne peuvent lire que les germanistes. Voilà, ça c'est des effets très très importants, mais que je voulais souligner à ce moment-là. Je dirais que je n'ai pas trop le temps de développer sur ce qu'a fait le réseau NES. Il a connu des avancées positives, il a connu des difficultés. C'est un endroit intéressant pour voir l'évolution de la pensée européenne sur l'éducation. Pour prendre un exemple, on sait par exemple que là, la Commission prépare une année, parce que à chaque fois qu'il y a une présidence d'un pays de l'Union européenne, il y a un thème. Alors là, je ne sais plus où on en est. Je ne sais pas si on est déjà sorti de créativité et innovation. Mais comment ? Ça va se terminer, c'est bientôt terminé. Donc on était sous créativité et innovation. Là, on va passer notre présidence et on sait qu'il y a une présidence où on va nous demander de faire ils préparent du travail sur l'éducation et l'environnement. Bon. Et donc, évidemment, ils vont faire un rapport sur l'éducation et l'environnement et ils ont déjà demandé à NES de se positionner. Ben, il va falloir nous trouver des experts, des gens qui produisent, des réflexions, des travaux de recherche sur l'éducation et l'environnement. Bon. Donc on voit comment s'anticipe ce genre de décision. Mais on voit également les problèmes à structurer des pensées de façon très rapide et de façon très réactive, parce que la Commission européenne, c'est le style, ils vous envoient un document et ils vous disent « on voudrait une réponse en 3 semaines ». Les chercheurs, et particulièrement les chercheurs en sciences sociales, leur rythme, c'est plutôt pendant 3 semaines, on commence à réfléchir et puis on envisage une réponse pendant 3 ans. Donc, c'est pas les mêmes rythmes. Hein. Bon, donc c'est très difficile d'arriver à ce rythme, un peu le rythme consultant, vous savez, question-réponse immédiate avec deux points ou 3 points, style note de cabinet Sciences Po. Donc, c'est très compliqué. Mais par ailleurs, outre ces problèmes de décalage culturel légitime, ça pose aussi les questions de la difficulté de disposer d'une communauté structurée de recherche en éducation. Il y a certains thèmes, où je sais, dans le travail de cartographie, on a énormément de mal à avoir une cartographie En Europe, simplement parce que la question n'est pas du tout définie de la même façon selon les pays, qu'il y a des pays qui sont complètement absents de la thématique et d'autres qui sont surreprésentés, et surtout que la définition de ce que peut être une qualité de niveau scientifique et en même temps experte sur un thème est très variable selon les aires géographiques, selon les pays, selon les aires linguistiques. Et donc on voit bien, et je prépare peut-être la suite, je ne sais pas comment on va enchaîner sur mon diaporama.
Bah, c'est je te l'ouvre.
Voilà, si tu veux me l'ouvrir pendant que je parle. On voit très bien quand on examine les réseaux internationaux qu'en fait, il y a au moins, je dirais, dans le paysage international et particulièrement dans le paysage européen, une sorte, j'appellerais ça une banane, hein, une banane qui va de l'Amérique du Nord jusqu'aux pays nordiques, en passant par l'Angleterre, les Pays-Bas, bon, vous voyez à peu près tout ça. Donc, alors, elle a une drôle de forme, ma banane, hein, mais bon, on voit un peu. Qui a un ensemble où, en tout cas de cause, on partage des références assez communes parce qu'on parle tous la même langue anglaise et qu'on accepte de jouer le jeu de communiquer en anglais dans des revues communes, dans des bouquins communes, et on fréquente les mêmes colloques et on fréquente les mêmes associations, et à partir de là se crée quelque chose, quand même une façon de travailler, des références, des concepts communs, etc. Sauf que en dehors de ça, il y a tout le reste qui ne partage pas. Alors, point important, cette banane en plus, elle arrive à avoir des connexions mondiales. Des connexions avec, évidemment, le monde asiatique, des connexions avec les anciens pays du bloc de l'Est, dits en émergence, qui se convertissent très facilement à l'emploi de la langue anglaise, qui en plus a une fascination culturelle, etc. Bref. Et avec d'autres aires, comme l'Afrique du Sud, par exemple. Bon. Alors qu'en revanche, il y a toute une partie de l'Europe qui reste un peu en dehors du coup, en partie la France, pas mal l'Europe du Sud, et puis des continents entiers, donc une bonne partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Amérique du Sud qui est avec l'Espagnol et le Portugais et sont dans d'autres logiques, et puis d'autres parties du monde. C'est des questions qui posent débat, mais qui sont très importantes pour raisons tant scientifiques au niveau de la recherche que pour des raisons de stratégie politique. Alors, je vais essayer donc de ne pas rester trop théorique là-dessus et de tout de suite l'illustrer par des exemples qui vont aussi nous montrer un peu comment peut marcher une partie de la recherche au niveau international. J'ai tout de suite commencé, je pensais bien qu'à la fin de cette journée, vous en aurez marre des grands cadres généraux, donc par juste quelques exemples très immédiats, très parlants. On vous a déjà parlé de cette association, l'Association européenne de recherche en éducation. J'ai mis le titre en anglais parce que si vous allez sur Internet, c'est plus facile de la repérer comme ça. C'est une association qui n'est pas une association d'individus, mais une association une association d'associations nationales. En théorie, l'idée, c'était de regrouper les associations nationales d'universitaires dans le champ de l'éducation. Par exemple, pour la France, l'Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation. Pour l'Angleterre, la British Educational Research Association. Pour l'Allemagne, le nom qu'a donné Annie, que je ne me risquerai pas à reprendre, etc. etc. Et à partir de là, de faire donc une association européenne. Dans la réalité, cette association a longtemps tourné et tourne encore beaucoup sur le bout de la banane européen, hein, que je vous ai un peu dessiné. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de gens des pays nordiques, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, voire même Islande, tous les pays britanniques, les Pays-Bas, des Flamands belges, des Belges flamands plutôt. Et puis de plus en plus l'Allemagne, je vais y revenir, République tchèque, Autriche et un peu de France, etc. Bon. Donc ils ont tendance quand même à être avec le centre de gravité, non pas parce qu'ils veulent exclure les autres, au contraire, on fait tout. Enfin, quand je dis on fait, parce que j'ai participé à des congrès, j'ai lu bref, il y a eu des réunions, etc. Mais tout est fait pour que les Italiens, les Espagnols, etc. s'impliquent plus, mais c'est pas toujours évident. On y arrive sur certains réseaux, notamment sur le réseau sur le vocational training, où là, les pays latins sont pas mal représentés. C'est plus difficile sur d'autres thèmes. Alors, cette association donc a été fondée en 1994. Son siège est désormais à Berlin. Parce qu'il faut dire que les Allemands donc, sont montés en puissance dans cette association. La présidente sortante est Ingrid Gogolin, qui vient de l'université de Hambourg et qui a quitté la présidence de l'European Educational Research
Association, que pour devenir la vice-présidente ou la coprésidente, non la coprésidente je crois, d'une nouvelle association mondiale, World, qui a été fondée ce printemps, mais où ils ont fait leur inauguration en grande pompe lors du congrès justement de l'IRA à Vienne, en Autriche, hein, pas au sud de Lyon, là en septembre 2009, association qu'ils font avec l'association des Américains, dont Marie Gossel vous a parlé tout à l'heure, une association de recherche en éducation asiatique, une association de recherche en éducation sud-africaine, et d'autres associations par-ci par-là. Mais vous voyez tout de suite la connexion que je vous ai dit, Afrique du Sud, etc., etc. Bon, mais c'est important à connaître. Ingrid Gogolin était dans cette salle même il y a cet été pour un séminaire d'autres choses dont je voulais vous parler après. Comment fonctionne l'IRA ? Une vingtaine de réseaux thématiques. En fait, les réseaux, c'est en gros des gens qui se retrouvent une fois par an lors du congrès annuel de l'ESER dans une grande ville européenne. Il y a même un réseau pour nous. Hein, c'est le réseau 12 qui regroupe les centres d'information et de ressources pour la recherche en éducation. On n'est pas très nombreux dedans, je ne pense pas qu'on soit 12, mais on représente quoi, 5-6 pays, parce que c'est des structures. Il y a évidemment nos collègues du DIPF en Allemagne, il y avait notre collègue du British Education Index, il y a un collègue suisse, un collègue autrichien, les italiennes viennent de temps en temps. Enfin bon, je dis italienne parce que je mettais des personnes physiques derrière, je me rappelais des gens. Mais voilà. Mais pour dire que ces réseaux donc, sont très diversifiés, et il y a à peu près 23 associations nationales ou régionales, par exemple les Belges, tout ça, bon, qui sont membres. 23, mais ils ne participent pas tous de façon aussi intense. La France, par exemple, a toujours un siège dans le conseil d'administration qui est occupé actuellement. C'est plus Bénédicte Gendron, c'est quelqu'un d'autre, mais enfin bref. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que l'association des Français est très très active dans l'IRA. Donc un congrès annuel dans une grande ville européenne. Là, je vais vous parler un peu de ce congrès parce que c'est souvent à l'image des grands congrès internationaux. Donc c'est assez amusant pour ceux qui ne connaissent pas. Le congrès cette année, c'était à Vienne. L'année dernière, on était à Göteborg. Avant, ça a été à Gand, à Genève. L'année prochaine, c'est à Helsinki. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment dans chaque ville. En fait, c'est les Italiens qui devaient l'organiser l'année prochaine à Turin, mais justement, c'est un des signes qu'ils ne sont pas arrivés à l'organiser. Parce que ces congrès, c'est des grandes choses. Hein, il y a du monde. Il y a en gros, style, 1000 à 1500 participants qui arrivent. Et c'est un peu comme dans David Lodge, pendant 3 jours, il y a des gens dans tous les sens, toute une université qui est mobilisée, tous les hôtels de la ville qui sont remplis, il y a des cocktails d'inauguration dans tous les sens. Et il y a énormément d'ateliers en parallèle qui se tiennent. Alors, quand je vous dis 1000-1500 personnes, tout de suite, vous avez peut-être une image de grand amphithéâtre plein. Mais en fait, à part quelques grandes sessions où on invite des gens un peu prestigieux pour faire des conférences, c'est des ateliers qui souvent réunissent 12, 15, 20, 30 personnes sur des sujets extrêmement pointus et où souvent, d'ailleurs, tout le monde se connaît. Moi, comme j'y suis souvent allé en visiteur, au début, en gros, j'étais le seul qui n'était pas connu dans la petite salle où il y avait deux Finlandais, un Hollandais, un Britannique. Ils avaient l'air déjà tous se connaître puisque ce sont des réseaux structurés autour d'objets, de façon de penser ou de choses comme ça. Mais donc, c'est un moment d'échange très important. C'est là où se constituent beaucoup d'alliances pour faire des coopérations, pour monter des projets ensemble, pour échanger des tuyaux, etc. Donc c'est un endroit central. Le premier congrès auquel j'ai participé, c'était à Genève, moi. Donc c'était dans un pays francophone. Malgré cela, si on était 15 à 20 Français tout mouillés, c'était le maximum. Donc la France est très très mal quand même représentée dans ces endroits-là, même si ça s'améliore. Et ces congrès donc sont des temps importants. Ce modèle de congrès où il y a beaucoup de monde, avec tous ces ateliers en parallèle et juste quelques grandes conférences prestigieuses, c'est en gros le modèle du congrès international qu'on retrouve à peu près partout, y compris dans des congrès thématiques. C'est assez cher en plus. C'est que c'est des colloques où les SER, si on n'est pas... Bon, normalement, l'idée, c'est qu'il y a un tarif pour les membres des associations nationales. En fait, je crois qu'ils vérifient même pas si on en est vraiment membre. Je ne devrais pas le dire. Mais autrement, le droit d'entrée, c'est de toute façon quand même entre 600 et 800 euros minimum. Hein. Et après, il faut payer soi-même le déplacement et l'hébergement, bien évidemment. Donc, c'est quand même des choses qui sont un peu lourdes à gérer. Pour aller un peu vite aussi, mentionner que cette association édite le European Educational Research Journal depuis 2002, je crois, qui est revue qui est essentiellement, qui accueille ce qu'on pourrait appeler les actes des roundtables qui sont organisés à chaque congrès annuel sur un thème où on fait venir des gens un peu prestigieux sur un thème et on organise tout un symposium autour d'eux et ensuite on publie les actes, mais aussi d'autres articles. Mais c'est assez intéressant pour avoir une vue globale de la recherche en éducation au niveau européen. Cette association a notamment lancé un projet dont vous voyez le nom derrière moi, qui est un projet de l'Union européenne, c'est-à-dire financé par l'Union européenne, mais qui a en fait été initié par Ingrid Gogolin, comme présidente de l'IRA, et qui vise en fait à trouver des critères de qualité adaptés en général aux sciences humaines et sociales, avec comme cas particulier de celui de l'éducation, c'est-à-dire qu'en gros on a décidé de prendre l'éducation comme champ de test, pour essayer de trouver une alternative à ce dont on va un peu parler demain, à savoir le recensement quantitatif des citations dans les revues, dans les banques de données du style Web of Science que l'on pratique ordinairement. C'est-à-dire d'essayer de trouver des critères de qualité un peu automatisés, mais qui s'appliquent aux sciences humaines et sociales. Donc ce qui veut dire quelque chose qui ne met pas comme prérequis d'être une publication dans une revue éditée en anglais et si possible aux États-Unis. Bon, donc ça veut dire qui prennent en compte toutes les formes de production qui existent en sciences humaines et sociales, et notamment les ouvrages, les chapitres d'ouvrages, et puis évidemment toute la littérature grise, les rapports, les actes de conférence, etc., et qui respectent le multilinguisme. Le premier prototype qui est en cours de construction dans le cadre de ce projet ERKI vise à prendre en compte, bien évidemment, l'anglais, mais aussi le suédois, le français et l'allemand. C'est un test. Et l'une des idées, c'est d'essayer de trouver, notamment avec les dernières recherches sur la sémantique, des moyens d'analyser des textes pour tout de suite identifier s'ils sont construits de manière rigoureuse ou non. Des choses comme ça. Alors c'est un projet un peu foufou, mais je ne sais pas exactement sur quoi il va déboucher, parce qu'il n'est pas facile à mener. Il est mené avec plusieurs pays. Il se trouve que l'INRP en est membre associé, et que donc nous avons tenu un séminaire sur ce thème-là en juillet avec un certain nombre de responsables du projet. L'idée est d'avancer pas à pas pour essayer de voir si est-ce que malgré nos spécificités nationales, nos spécificités culturelles, on peut se mettre d'accord et trouver des méthodes communes pour dire voilà ce qu'est un texte qui respecte un certain nombre de critères de rigueur et de scientificité, ou voilà un texte qui lui par contre n'est pas dans les clous. Donc vous imaginez, l'enjeu est important. L'Union européenne y voit un intérêt évident, puisque dans une période où on est de plus en plus à évaluer ou à financer selon la rigueur et la qualité, l'alternative pour beaucoup de gens, c'est est-ce qu'on passe sous le modèle en gros américain des index de citation purement et simplement, et ce qui veut dire qu'en gros l'enjeu ça sera uniquement pour les autres pays de s'insérer individuellement plus ou moins bien dans ce modèle américain, ou est-ce qu'on essaye de trouver des façons d'évaluer la qualité et la rigueur de la recherche avec des critères si possible européens et des critères qui respectent les spécificités indigènes au sens les cultures disciplinaires et nationales et linguistiques. Bon. Donc voilà, cet enjeu est... C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de vous en parler. Alors il y a de nombreuses autres associations au niveau européen. J'en ai cité quelques-unes, mais qui là aussi sont toujours dans le même paradigme que j'ai décrit sur la cartographie, en gros, des mouvements internationaux. C'est-à-dire, vous avez par exemple la première association Early. C'est instructif de savoir comment elle a été créée, qui elle est également dans ERKI Early. Elle a été créée par des universitaires européens qui avaient comme point commun de se fréquenter quand ils allaient au congrès aux États-Unis de l'American Educational Research Association, et qui se sont dit « Ah, bah, ça serait bien qu'on fasse la même chose en Europe », mais comme c'était des individus, non pas des associations. Et comme en gros, c'est des individus qui avaient un point commun, c'est-à-dire en gros d'être dans les paradigmes de pensée des Américains, ils ont fondé une association qui est plus, je dirais, une importation de ces thèmes-là en Europe que réellement une émanation de la recherche en éducation européenne. Bon, ce qui n'est pas du tout évident à comprendre. Moi, j'ai mis un certain temps à comprendre. Hein, parce que comme ça, sur le seul sigle, bon, on ne peut pas le deviner, mais petit à petit, j'ai un peu compris de quoi il s'agissait. Autre type d'association très différente, c'est l'ADME. Tu pourras dire un mot si tu veux
parce que toi, tu es allé à leur colloque récemment, moi pas. L'ADME, en fait, c'est une association mondiale. Association, évaluation d'éducation, le D, c'est quoi? De mesures. De mesures et d'évaluation d'éducation, mais qui a en fait une grosse antenne Europe, donc l'ADME Europe. Et qui tient des congrès régulièrement, qui a une revue, etc. Alors au début, c'était sur des choses qui sont un peu passées de mode autour de la docimologie, c'est-à-dire comment faire, comment noter de la façon la plus précise et la plus exacte possible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste, la problématique de l'évaluation, mais ça regroupe beaucoup de gens. Et pour le coup, là, les francophones, ils sont extrêmement présents, notamment les Belges, les Suisses et à un degré moins de les Français. Les Québécois aussi, beaucoup. Bon.
Les Pays-Bas, ce ne sont pas des francophones, mais ils sont beaucoup d'autres.
Monsieur aussi, Olivier, il y a aussi l'EUA, parce que tout à l'heure...
L'European University Association,
la recherche, c'est ça, la recherche aux États-Unis, il a dit que le Teams, il a été...
Ah non, l'EUA, pardon.
C'est l'Association internationale de l'évaluation.
Ah oui, ça aussi.
C'est un collège, bon comité de pilotage, et bien sûr, en Allemagne, c'est le traitement des données, et le Canada, c'est l'analyse, etc.
Tout à fait. J'en ai pas parlé parce que justement, c'était une association là qui allait bien au-delà de l'Europe. Moi, je voulais un peu centrer sur l'Europe.
Oui.
Voilà. Mais effectivement, pas de problème. D'autres types de réseaux aussi que je voulais juste mentionner quand même pour montrer. Il y a un réseau qui s'intéresse aux parents dans l'éducation, ERNAP, European, etc., etc. Bon, alors là, il y a zéro français quasiment dedans. Mais là aussi, il fonctionne comme la plupart de ces courants internationaux, colloques tous les ans ou tous les deux ans, une revue, des gens qui se retrouvent, des réseaux qui s'échangent des mails, qui font des financements communs, etc. J'ai dit quelque chose de rigolo parce que là, j'ai pas...
Non,
non, excusez-moi, des fois je ne me rends pas compte de ce que...
Il
n'y
a pas de parents en France, c'est pour ça.
Ah, d'accord.
On a une natalité particulièrement...
Oui, mais bon, il faut bien dire, attendez, là, il y a très peu de chercheurs en France qui s'occupent de la question des parents, et donc les 2-3 qui s'en occupent, ils n'ont peut-être pas le temps non plus après d'aller dans les courir dans les congrès internationaux, mais c'est vrai que sur beaucoup de sujets, bon, il faut bien le dire, hein, sans vouloir se battre la coupe, on peut dire qu'on est très présent au niveau international parce que l'OCDE, c'est un peu nous, parce que c'est à Paris, bon, mais si on évite ce genre d'astuces, il faut bien dire qu'on n'est pas très présent au niveau international, ni dans l'Union européenne, ni ailleurs.
Je vais faire ma mauvaise langue, mais parfois on se demande un peu si le fait que le siège de l'OCDE soit à Paris est pas suffisant en soi, parce que quand on regarde un peu près les projets, on n'est pas très souvent dedans quand même.
Ouais, mais enfin ça c'est notre faute parce que... Enfin, moi, j'aime bien que ce soit à Paris. J'ai pu faire venir un copain qui travaille à l'OCDE dans une conférence parce que, voilà, au moins, il n'y avait pas de frais de déplacement. Mais bon, c'est vrai que... Donc, oui, en général, les Français sont quand même pas super présents. Je ne sais pas ce qui est dû à un réflexe culturel qui est de dire « la France nous suffit ». Au poids de la francophonie qui est de dire on a quand même une ère internationale naturelle avec la francophonie, donc on a tellement d'échanges avec la Suisse, le Québec, le francophone, les pays francophones africains, etc., que finalement bon, l'international c'est bon, on en a déjà fait pas mal, ou si c'est la barrière linguistique. Bon, moi j'ai l'impression que la barrière linguistique est quand même très importante. Alors c'est peut-être un peu trop autobiographique, mais parce que moi je m'exprime mal en anglais et que c'est très très pénible d'assister pendant 3 jours à des congrès et d'être très fatigué quand même, parce que même si on comprend, même si on s'y met, c'est pas très fluide. Mais j'ai l'impression quand même que ça joue encore plus pour des chercheurs qui, eux, sont strictement incapables de passer du français à l'anglais et donc se ferment d'eux-mêmes l'entrée dans ce genre de colloque, congrès ou association. Donc voilà un peu pour l'essentiel de ce que je voulais dire sur ce thème-là. Bouffe là. Bref. Alors j'aurais pu développer plus, mais j'avais prévu de faire court parce que je savais bien qu'on allait arriver... Dans ces horaires-là. Simplement, quand même, je voudrais redire, c'est peut-être la sixième fois qu'on le dit en deux jours à des moments divers et variés, mais c'est très important. L'international, c'est pertinent scientifiquement, c'est aussi devenu réellement un enjeu pour la structuration, le financement et la lisibilité de la recherche, y compris dans le domaine de l'éducation. Le fil rouge que vous avez sans doute senti à travers des interventions qui ont pu être parfois un peu disparates toute la journée, c'est bien quand même que vous avez compris qu'on a de plus en plus des financements sur projet,
que dans ces financements sur projet, il y a des fonds qui sont mobilisés, qui sont souvent des fonds internationaux, OCDE, Europe, etc. De même, vous avez compris que la coopération est fortement valorisée, coopération souvent internationale, et qu'y compris, il y a de grands cadres, soit d'instrumentation de la recherche en éducation. Quand je dis d'instrumentation, c'est qu'on ne peut pas penser aujourd'hui la comparaison internationale en faisant comme si PISA, TIMSS, etc. n'existaient pas. Donc, ils ont un effet structurant fort. Ou des cadres, y compris paradigmatiques ou conceptuels forts. Laure faisait allusion à la question des compétences, au cadre européen de certification des langues. Vous avez vu ce qui se passe au Danemark. J'imagine que Agnès Cavé a dû dire des choses ressemblantes au Québec. On a vu ce qui se passe en Allemagne, etc. On comprend bien qu'on ne peut plus vivre de façon isolée. Et qu'il ne s'agit pas uniquement de se dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne de l'OCDE qui pourrait avoir des effets sur moi ou vice-versa, mais qu'on est de plus en plus dans un monde où on est à la fois dans son pays, mais à la fois dans l'Union européenne, à la fois dans le concert international, et qu'il est très difficile de vivre dans une seule des dimensions en ignorant les autres. Je crois que c'est ça qu'on a essayé un peu de faire passer aujourd'hui, non pas tant que c'est une réalité peut-être quotidienne pour tout le monde, mais qu'il nous semble que ça devient quand même une tendance forte et structurante pour tous ceux qui, en gros, veulent agir ou se servir de la recherche en général, en sciences humaines en particulier, en éducation encore plus en particulier. Voilà. Bon, j'ai quelques minutes pour répondre sur vos questions. J'ai été très, très rapide sur NES, notamment, mais on peut y revenir maintenant.
Est-ce qu'il y a des recommandations ou je sais pas comment on appelle, des politiques ou je sais pas quoi, qui sont faites pour encourager les chercheurs français à s'ouvrir vers l'extérieur, justement?
Oui. Oui, il y a des recommandations dans le discours, mais il y a des recommandations beaucoup plus nettes. Il y a une incitation permanente à publier dans des revues internationales, et il y a même des encouragements financiers à se doter de cellules qui aident à répondre, y compris aux appels d'offres, qui aident à se déplacer. Oui, il y a des recommandations et des incitations même relativement fortes. Voire même parfois certains disent des injonctions, parce qu'ils trouvent que c'est un peu exagéré.
Mais vu comme on est fermé, je pense pas que ce soit du tout exagéré.
Ça, après, c'est une question de c'est une question d'avis, mais les gouvernements en général ils poussent quand même à ça. Modulo, je vous dis toujours cette histoire de la langue. Est-ce que il faut mettre en concurrence la francophonie, l'internationalisation? C'est toujours des questions que tout le monde se pose.
Français, oui. Et
oui, bah non, oui, forcément.
Je me plains parce que moi, je suis étrangère et je fais mes études ici et plus j'avance et plus je me rends compte de à quel point c'est fermé. Et donc dans un monde où les jeunes sont de plus en plus mobiles, c'est vrai que ça pose problème pour s'exporter après à l'international. Et donc les encouragements financiers qui sont donnés, ils sont donnés par l'État.
Oui, quand je dis encouragement financier, c'est que l'État souvent maintenant prévoit des dotations plus importantes pour ceux qui ont des projets, qui ont des coopérations internationales, qui ont témoigné de leur capacité à avoir des projets internationaux, et souvent même fait de la capacité à exister, entre guillemets, au niveau international, une condition pour avoir des financements récurrents supplémentaires, des financements de base supplémentaires. Par exemple, par le biais de l'évaluation, de choses comme ça, quoi.